Choc FM 105.1, reportage avec Marine Autogali.
Ce qu'on présentait, c'était un livre d'un des auteurs, puis il y a quelqu'un qui est expert en microbrasserie ou en bière, qui essayait d'associer un livre, une bière au livre en fonction du contenu du livre. Et c'est ça qui déterminait, ça fait qu'on a eu trois livres, trois auteurs et trois types de bières.
Le 31e Salon du Livre de Toronto a misé sur l'originalité. Entre les séances de dédicaces, les conférences ou les ateliers d'écriture, une proposition curieuse s'est déroulée dans l'Agora de l'Université de l'Ontario français qui accueillait l'événement. En effet, animé par Mario Dair, auteur et amateur de bière, la séance proposait d'associer un livre avec la boisson houblonnée. Deux auteurs et une autrice sont donc venus lire des extraits de leurs ouvrages que l'animateur a ensuite associé avec une bière. La salle comble a pu déguster les propositions en compagnie des auteurs et auteureux.
Mais c'était vraiment passionnant parce que j'ai découvert l'œuvre d'un auteur marocain. Et la bière, la première bière qu'on a dégustée après, c'était ma préférée. Donc, et je bois jamais de bière. Je suis une fille à cocktail, alors je pense que c'est pas mal. C'est une bonne... Allier la littérature et la bière, ça marche pas mal.
Soufiane Chakouche, journaliste et romancier, a lu un extrait de son dernier roman policier de sa série avec l'inspecteur Dalil. L'ouvrage s'appelle d'ailleurs « Inspecteur Dalil à Beyrouth » et l'auteur a choisi de lire un extrait situé à la fin du livre.
« Qu'est-ce que la chatte fout avec le Hezbollah ?» se demanda-t-il. « Collabore-t-elle avec le parti d'Allah ?» Et puis, comment ces hommes ont-ils pu localiser le repère d'Abu Ja'far ? L'ont-ils fait grâce à leur réseau d'indiques ? Après tout, ce sont eux les vrais maîtres de la cité. Ou ont-ils bénéficié, par l'intermédiaire de la chatte, des renseignements fournis par le génie à lunettes pour aboutir à une opération conjointe des deux ennemis de toujours dans le but de supprimer Barberousse et sa bande? Dalil n'avait plus la force de chercher des réponses. Il en avait marre de tout cela. Il ne nourrissait qu'une seule envie à présent, rentrer à la maison. Néanmoins, il voulut s'assurer qu'il ne s'agissait pas là d'une hallucination auditive. Il releva la tête et tenta de distinguer les lèvres suaves de la chatte, mais ne vit qu'un masque à gaz. Ses paupières s'alourdirent et sa respiration ralentit. Il se laissa entraîner sans lutter contre le sommeil ou la mort. Identification faciale de Mister Monde approuvée par trois niveaux de commandement, deux missiles s'expulsèrent simultanément. L'un à partir d'un sous-marin et l'autre d'un drone. Le premier était programmé pour percuter de plein fouet le Rosus, vrac et moldave de son état. Quant au second, moins puissant, mais bien dosé au préalable pour sa cause, fut expédié au hangar numéro 12. Manque de chatte, dans l'entrepôt limitrophe était stocké, à la manière arabe, 500 tonnes de nitrate d'ammonium périmé qui servait à tout, sauf à l'agriculture, pour le Hezbollah. Quelques minutes plus tard, le Rosus coula et la moitié du port de Beyrouth redevint poussière.
C'est très bon.
Je peux te dire que ma bière préférée était la deuxième, qui était associée au roman, deux romans Michel Laframboise. Alors, un c'est Le Papillon, mais je ne me souviens pas exactement les titres. J'ai trouvé l'expérience vraiment délicieuse, dans ce sens que... un petit peu de contexte par rapport à la créativité de l'auteur, puis ensuite un petit peu de dégustation par rapport à stimuler nos papilles et puis notre appréciation. Alors voilà, ça a été très agréable cet après-midi, ce soir, oui.
Michel Laframboise, qui a rappelé son passé de scientifique et sa sensibilité à la crise climatique actuelle, a lu un extrait de son livre « Le papillon monarque des glaces ».
Les seigneurs du pôle Nord ne sont pas cruels, pas du tout. Au contraire, mes pères Noël sont convaincus d'avoir tout fait pour empêcher cette crise planétaire. Ce sont les gouvernements qui ne voyaient pas clair. La dégénérescence éloquente des sociétés ne fait que confirmer rétrospectivement leur choix. Ils ne sont pas tout à fait coupés du monde. Leurs grandes usines roulent toutes seules dans les continents sinistrés qui leur appartiennent. Lorsqu'elles détectent un filon de métal précieux, elles étirent leurs grandes pattes terminées par des vrilles et creusent, ignorant les rares survivants qui doivent fuir. Alors, ces usines Behemoth ont une antenne à laquelle je peux me brancher pour envoyer ma propre récolte. Bien sûr, pour mon entretien vital, il me faut retourner au pôle Nord. De petits impacts se répercutent sur mon thorax. J'affûte ma vision télescopique. À peine distinct de la terre aride, deux jeunes barbus me révisent avec des mitraillettes qui fonctionnent encore. Deux femmes en noir qui puisaient l'eau d'un puits courent se réfugier dans une hutte de boue séchée. Dans cette mosaïque d'états grands comme des tapis, les mercenaires des seigneurs de la guerre me canardent. Ma présence dans leur ciel leur rappelle que quelque chose de la civilisation occidentale honnie par le grand-père a résisté. Les balles qui arrivent à mon altitude ont tellement perdu de leur énergie cinétique qu'elles rebondissent comme des raisins mous sur ma coque. Même si je descendais plus bas, mon corps de papillon est pratiquement invulnérable. Une balle chanceuse de fusil à éléphant pourrait sans doute sectionner les attaches de mes ailes, mais il faudrait pour cela que je vole sur le dos. Un canon sol-air? Il n'en reste plus assez en état de marche pour m'inquiéter.
Mon goût pour la bière était différent. La première, c'était un peu corsé. La deuxième, je trouvais que c'était un peu fade. Et la troisième, en fait, bière, c'était la meilleure, mais je ne sais pas au niveau des livres lequel m'intéresserait le plus, parce que les histoires avaient l'air intéressantes.
Daniel Marchilton a lu la dernière page de Voyage fatal. L'auteur précise avant de lire que son personnage raconte des voyages qu'il a faits. Celui-ci l'a amené à Cuba et on le retrouve sur un bateau de plaisance.
Cette fois, je transportais une serviette de plage pour mon ami. Les vagues et le vent ont secoué notre vaisseau sans pitié. Et voilà que, sans que personne ne s'en rende compte, je me suis retrouvé à la flotte dans le sillon du bateau qui a continué sa route. J'ai tôt fait d'abandonner la serviette à son sort pour me concentrer sur le mien. Incapable de nager, j'étais sûr de mourir. Par miracle, la houle m'a emporté jusqu'à un morceau de bois à la dérive. J'ai réussi à m'accrocher, tant bien que mal, et à me maintenir à la surface. Au bout de quelques heures interminables, j'ai enfin été repêché par un jeune couple à bord d'un voilier. Mes sauveurs m'ont immédiatement adopté. Avec ces hardis navigateurs, j'ai remonté la côte de l'Amérique. Au bout de plusieurs semaines, le voilier a regagné son port d'attache, Halifax. Au bureau des douanes canadiennes, mes amis ont été forcés de m'abandonner avec des fruits qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer au pays. Devenu prisonnier des autorités portuaires, je n'entrevoyais plus qu'un sombre avenir. Heureusement, dès le deuxième jour, j'ai profité d'une fenêtre ouverte pour me faufiler. Par la suite, j'ai traversé le Canada en entier comme un vagabond, profitant gratuitement de toute une gamme de moyens de transport aussi insolites que variés. En voiture, en train, à dos de cheval, en clandestin, parmi des oiseaux. Et maintenant, parvenu au fond de cette forêt sèche, au pied des Rocheuses en Colombie-Britannique, je vois l'enfer se rapprocher. Mon dernier voyage, je l'aurais fait avec un campeur imprudent. Son feu de camp négligé s'est propagé dans les arbres. Incapable de combattre l'incendie qu'il a causé, il a décampé en abandonnant tout, y compris moi. Porté autant par un noroi qu'un vent de panique, je me suis cramponné à la branche d'un arbre. Mais les flammes avancent à grands pas. Je sens mes molécules se réchauffer. À moins d'un changement brusque dans la direction du vent, la mort me guette. Il me reste deux consolations. La première est grande. Grâce à tous ces voyages, j'ai vécu une vie palpitante. La deuxième demeure plutôt mince. Je ne souffrirai pas. Un sac de plastique, quand il passe au feu, se consume en quelques secondes à peine.
Est-ce que vous êtes venu déguster des bières ou écouter des romans?
Un peu des deux. On était assez curieux de voir cette association qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs.
Ça vous a paru pertinent? Est-ce que c'est un geste que vous allez refaire à la lecture du prochain roman?
J'ai trouvé ça très ludique. Donc ça rend la conférence un peu plus vivante et agrémentée d'un peu de bière. Après, bon, j'ai du mal quand même à avoir le rapport entre littérature et bière, mais ça a le mérite d'être original.
Est-ce que vous allez réitérer? Est-ce que vous, quand vous lisez, vous buvez?
Non, parce que je dois me concentrer. Sauf si c'est l'été et à la plage.
Est-ce que quand vous lisez, vous avez un verre à la main?
De temps en temps, un verre de vin, mais puisque je lis plus tard le soir, c'est plutôt sans verre.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
C'était un reportage de Marine Autogali dans le cadre d'Initiative Journalisme Local sur Choc FM 105.1.